Ouvrir encore votre Bible dans le livre du prophète Jonas. Jonas, si on arrive au chapitre 4 du livre de Jonas. Jonas, chapitre 4, 11 versets. Donc, c'est tout petit livre. Hein. C'est ce qu'on appelle ça les petits prophètes. Les livres ne sont pas grands. Donc, on va lire les 11 versets de ce chapitre 4. Jérémie, tu veux nous le lire, ça, bien, s'il te plaît, merci. Les versets 1, Jonas chapitre 4, versets 1 à 11.
L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit : La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de l'humilier de la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. »
Voilà, merci pour cette lecture. Donc chapitre 4, dernier chapitre du livre de Jonas. Quand on lit, on se dit que ça aurait pu terminer au chapitre 3. Hein, l'histoire semblait belle au chapitre 3, je trouve quand même. Hein. On a l'impression d'être arrivé quelque part au sommet de tout. Hein. Un Jonas au chapitre 1 qui désobéit, qui est rattrapé par Dieu dans une tempête, qui est sauvé par Dieu, qui prie dans le ventre d'un poisson, avalé par un poisson, il prie dans le ventre d'un poisson. Après, il obéit à Dieu, il prêche le message que Dieu lui demande de prêcher, il menace les Ninivites, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Toute la ville se repent et puis Dieu épargne le jugement. Et là, on pourrait dire... Tout est bien qui finit bien. Hein. Ça aurait été à Hollywood, on aurait dit, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et ils furent heureux. Hein. Ça veut dire quelque chose qui termine, on connaît ça un petit peu. Hein. Et on aime les histoires qui se terminent comme ça, n'est-ce pas? Et puis on dit, ouf, ça c'était bien, au moins on voit comment Dieu a agi. Mais quand on lit, voilà, c'est pas ce que l'on trouve, il y a un quatrième chapitre. Et ce quatrième chapitre, il ne continue pas à montrer Jonas sur un sommet obéissant à son Dieu, mais il s'agit presque d'un bras de fer, pas vraiment, mais une discussion entre le prophète et son Dieu. Hein. Et le Seigneur montre donc que l'histoire ne se termine pas au chapitre 3, qu'il a certainement encore d'autres choses que nous devons apprendre, que Jonas devait apprendre, mais aussi que nous devons apprendre avec ce chapitre 4. Et il nous dit que le sommet, ça n'est pas souvent là où on croit qu'il se trouve, que le meilleur, c'est pas souvent ce que l'on croit, et que la grâce et la miséricorde de Dieu est infiniment plus grand que ce que nous pouvons parfois saisir, hein, que ce que nous pouvons comprendre. Alors, quand on regarde ce passage, on voit la fin du chapitre 3 termine avec le fait que Dieu se repent et qu'il ne fait pas le mal qu'il avait projeté de faire. Et cela commence avec « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. » Et donc, on a ici un prophète en colère, on pourrait dire, contre Dieu. Et c'est quelque part la colère, une crise de colère même, on pourrait dire ici. Ce n'est pas juste qu'il a colère, il fait vraie crise de colère contre Dieu. Et c'est la crise de colère du prophète face au Dieu qu'il dit être, comment il le dit un peu plus loin, être lent à la colère. Donc, il y a un prophète qui est en crise de colère face à un Dieu qui est lent à la colère. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Et plusieurs fois, hein, il est dit qu'il fut irrité. Il est même dit que Dieu lui-même parle de son, fait quelque chose pour son irritation et Dieu lui demande est-ce qu'il fait bien d'être irrité. Donc il est vraiment en colère. Lui-même, il le sait et Dieu le sait. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette colère? La première chose qu'il fait au verset 2, c'est quoi? Il prie. Il prie. C'est assez étrange, mais il dit qu'il implore l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais, etc. etc. » Donc, il prie, mais comment on pourrait qualifier sa prière? C'est une prière de mécontentement, une prière de colère. Il est vraiment en colère. Donc, c'est la prière de colère du prophète. Je relis, il implora l'Éternel et il dit, « Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu as un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Avez-vous déjà adressé une telle prière à Dieu ? Avez-vous déjà adressé une telle prière à Dieu? Je sais que tu es bon, alors puisque tu es bon et que tu manifestes ta bonté envers un tel, je préfère mourir que vivre. C'est un peu en résumé ce que Jonas dit ici. Et c'est une drôle de prière, c'est une prière de mécontentement, c'est une prière d'un homme en colère. Alors nous allons regarder donc, ces trois premiers versets dans un premier temps, sa prière, essayer de voir ce qu'elle révèle, ce que nous révèle la prière de Jonas. Peut-être, premièrement, quant à ses pensées, qu'est-ce que ça nous révèle? Il dit ce qu'il a au fond du cœur. Depuis le début, il le dit. D'accord? Il dit, c'est là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays. D'accord? Et selon vous, qu'est-ce qu'il y a au fond de sa pensée, ici, quand il dit cela? Est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait être au fond de sa pensée? Oui, se justifier, voilà ce qu'il avait fait, très bien. Ok. D'autres? Tout? Il dit que. Oui, c'est ça. Il dit que le temps est. Oui, il a perdu du temps. Il a perdu du temps. Quand il dit, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Qu'est-ce qu'il voulait prévenir? Il voulait, oui. La repentance, oui, la repentance des Ninivites et le fait que Dieu suspende son jugement. Depuis son pays, Dieu lui dit. Va à Ninive et tu vas prêcher. Mais lui, dans le fond, il ne voulait pas y aller. Et pourquoi il ne voulait pas y aller? Parce qu'il ne voulait pas que Dieu fasse du bien, vu que Dieu, que Dieu répande sa grâce sur les Ninivites. Donc il dit, il voulait prévenir ça. Et pourquoi est-ce qu'il voulait le prévenir? Ici, parce qu'il sait que Dieu est un Dieu, on va le voir un petit peu plus tard, un Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, compatissant. Et il fait quoi en faisant cela ici Moi, j'ai noté ça comme ça. Au fond de son cœur, il ne voulait pas que Dieu épargne Ninive et que Dieu manifeste sa bonté envers les païens en particulier. Ça aurait été envers des gens d'Israël, ça n'aurait pas été un problème, je pense, pour lui. Ce qui était le problème, c'est que cette bonté de Dieu, cette compassion de Dieu, cette miséricorde de Dieu s'étende à ceux qui ne sont pas des et qui ne sont pas d'Israël. C'est le premier prophète qui va hors d'Israël pour annoncer la parole de Dieu à des gens qui à des c'est la capitale de la Syrie, hein. C'était après c'est les gens qui ont lutté contre le peuple d'Israël et donc c'était quelque chose que qu'ils ne pouvaient pas saisir, hein. Ces gens-là sont faits pour subir la colère de Dieu, hein. S'il faut aller vers le peuple d'Israël, les prier à se repentir, de se tourner vers Dieu, ça va, mais les nations, les gens qui ne sont pas d'Israël, c'est quelque chose qui n'était... Il n'avait pas, comme on dit souvent, il n'avait pas de case pour ça dans son esprit. Et donc, il dit à Dieu, je voulais prévenir ça quand j'étais dans mon pays. Et donc, sa prière, c'est une prière qui révèle vraiment la pensée qu'il a dans son cœur, sa position par rapport aux gens qui ne sont pas du peuple d'Israël et du fait que pour lui, hein, Dieu n'a rien à faire avec eux. Il a tout à faire avec le peuple d'Israël, mais pas à faire avec ces gens-là. On l'a dit aussi, sa prière, c'est une prière d'auto-justification, hein. Il se justifie. Il dit, c'est ce que je voulais prévenir lorsque j'étais dans mon pays et que j'ai fui à Tarsis. Il fuit de peur que sa prédication n'entraîne quoi ? La repentance, et que la repentance de Dieu, la repentance, pardon, des Ninivites, fasse que Dieu leur rende grâce aux Ninivites. Et donc, il se justifie en disant qu'il a eu raison de désobéir. Il dit, c'est ça que j'ai voulu faire. Maintenant, il justifie pourquoi il a désobéi à Dieu. Il dit, parce que je savais que tu allais faire ça. Or, qu'est-ce qu'il lit dans l'Exode ? Il lit que Dieu est lent à la colère, compatissant, miséricordieux, qu'il pardonne jusqu'à 1000 générations, mais qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'il le juge. Et c'est ça qu'il veut. Ce sont des coupables. Après tout, Dieu avait dit que la méchanceté est montée jusqu'à moi. Et que peut faire un Dieu contre une nation païenne, pas d'Israël, dont la méchanceté monte jusqu'à lui, il ne peut que ne pas les tenir pour innocents et les punir. Donc, il dit, voilà, j'ai fui loin de Tarsis pour prévenir cela, et il justifie en prenant même la parole de Dieu pour justifier cela. Je sais que tu es un Dieu lent à la colère, compatissant, etc., et que tu te repens du mal. Et eh bien, pour que tu ne te repentes pas du mal, j'ai voulu fuir pour que tu ne fasses pas grâce à ce peuple. Et donc, quelque part, il est en train de dire, de se justifier avec l'Écriture, hein, avec ce que Dieu a dit. Le diable a fait la même chose avec Jésus, hein, vous vous rappelez, hein, il a monté sur une montagne et puis il a dit, il est écrit dans la parole de Dieu, tu te jettes. Et puis, Dieu avait dit, on ne doit pas tenter Dieu. L'apôtre Pierre dit la même chose dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Il dit qu'il y a des gens qui prennent ce que l'apôtre Paul écrit et puis qu'ils tordent le sens parce que c'est parfois difficile à comprendre et ils tordent le sens pour leur propre ruine. Donc on peut prendre la parole de Dieu et la tordre. Jonas, c'est ce qu'il fait ici. Il prend la parole de Dieu, il prend le fait que Dieu, certes, il est compatissant, mais qu'il dit qu'il va punir pour dire qu'il veut qu'il accomplisse cela, mais comme il sait qu'il ne va pas l'accomplir, alors il fuit loin de Tarsis, dans l'autre direction. Et il justifie quelque part sa désobéissance. Et puis, il accuse Dieu, on pourrait dire ça aussi, hein, il accuse Dieu, j'ai mis ça comme ça, il accuse Dieu d'être ce qu'il est. C'est comme s'il dit à Dieu, ta faiblesse ou ta force, c'est ta faiblesse. Hein, tu as une faiblesse, c'est que tu es compatissant. Alors certes, tu dis que tu vas punir, mais tu es tellement compatissant que je sais que si le pécheur se repent, tu te repens du mal que tu lui avais fait. Et tu es tellement compatissant que cette compassion peut déborder même jusque sur un peuple païen. Ce qui n'était pas concevable dans l'esprit de Jonas. Donc c'est comme s'il disait à Dieu, ce qui ne va pas avec toi, c'est toi-même. Hein? Il n'a pas dit ça, mais c'est un petit peu comme s'il disait ça. Tu es miséricordieux, tu es compatissant, par conséquent, tu te repens du mal. Voilà, il y a comme un manque de cohérence hein, chez toi. Il dit, voilà, tu affirmes la destruction et tu te repens du mal que tu as prononcé. Et certainement, Jonas, il a prêché pendant 40 jours, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Hein. Il a prêché ça, enfin, je ne sais pas s'il a prêché pendant 40 jours, s'il est resté que le premier jour, il a dit ça, je ne sais pas. Et puis les jours se sont passés, il n'a pas vu cela arriver. Et c'était quelque chose qui était compliqué pour lui à gérer dans son esprit. Hein. Un prophète, il était reconnu lorsque ce qu'il prophétise arrive. Hein, vous lisez le Deutéronome, il dit comment est-ce qu'on reconnaît un vrai prophète? Eh bien, il est reconnu par le fait que quand il dit que quelque chose va arriver, la chose arrive. Et Jonas, il prêche 40 jours, il n'y a plus de Ninive. Et après, Ninive est toujours là. Hein, quelque part, on pourrait penser, hein, imaginer que c'est comme si voilà, son ministère, sa prophétie ne se réalise pas. C'est comme si Dieu fait de lui, finalement, un faux prophète, hein, quelque part. Et donc, c'est quelque chose qui passe mal. Il est vraiment en colère. Il est vraiment en colère contre Dieu ici. Et donc, il prie, et sa prière consiste à demander à Dieu la mort. Il dit, je préfère mourir que de voir ça. Il avait déjà dit au chapitre 1, vous vous rappelez, jetez-moi à la mer, je préfère mourir que... C'est comme s'il avait dit, je préfère mourir que d'aller prêcher à Tarsis. Il va à Ninive, pardon. Il va prêcher à Ninive. Et maintenant que Ninive se repent, il dit, je préfère mourir que de vivre. La mort m'est préférable à la vie. Un peuple méchant, dont la méchanceté est montée jusqu'à Dieu, c'est ce qu'on voit au chapitre 1. Il dit, c'est monté jusqu'à toi. Tu me demandes de crier encore 40 jours et cette ville est détruite. Je m'épuise à crier. Et puis, ces gens-là, ils se mettent des sacs dessus. Ils mettent des sacs sur les chats, des sacs sur les bœufs, des sacs sur les chiens, sur Foxy, sur, que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Et puis ils sont là et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les épargnes. Tu les épargnes. Il dit, non, moi, je préfère mourir que de voir ça. C'est un peu comme le fils aîné, vous vous rappelez dans l'histoire dans Luc 15, il dit, cet homme qui a dépensé tout ton argent avec les prostituées, il est parti, il a gaspillé. Il a osé te demander la moitié des biens. Et maintenant qu'il n'a plus rien, il revient en face de toi et puis il fait semblant de dire, papa, pardonne-moi, etc. Et puis toi, tu le veux gras pour ce gars-là. Il dit, jamais je rentrerai. Je préfère mourir que de voir ça. C'est un peu ça, un peu le sentiment de Jonas ici. Hein. Et ça peut nous arriver aussi, hein. D'avoir ce sentiment de ne pas vouloir que Dieu fasse grâce. Je me souviens de parler avec des personnes qui disaient, mais si Hitler s'était repenti, est-ce que Dieu allait lui pardonner? Et je dis, ah non, j'espère que non, après tout ce qu'il a fait. Hein, on est un peu comme cela, n'est-ce pas? On pense qu'il y a des endroits où les gens sont trop pécheurs. Mais trop. Et que ce serait bien que Dieu ne leur fasse pas grâce. Et c'est un petit peu ce sentiment-là que Jonas éprouve à ce moment-là. C'est un peuple furibond, méchant, sanguinaire. Et puis Dieu, le Dieu du peuple d'Israël, qui a choisi ce peuple d'Israël, il fait grâce à ce peuple-là. Et il ne peut pas accepter ça. Ça le met hors de lui, parce qu'il ne comprend pas pourquoi Dieu agit de cette manière-là. Donc sa prière est une prière de colère, qui accuse Dieu. Il accuse Dieu de faire une mauvaise gestion de sa grâce et de sa miséricorde. Et Jonas estime... lui avoir fait ce que Dieu voulait, qu'il fasse. Il est allé à Ninive, il a obéi, il a prêché, mais il estime que Dieu n'a pas fait ce qu'il voulait lui. Et ce qu'il est lui, c'était que Dieu fasse ce qui était dans sa prédication, qu'il détruise cette ville. Et il attend pour que Dieu puisse la détruire. Même un peu plus tard, on voit qu'il sort de la ville et il attend encore de voir ce que Dieu va faire, si Dieu va la détruire. Donc sa prière est une prière de colère, parce qu'il ne comprend pas que Dieu puisse agir de cette manière-là. Mais il peut nous arriver, comme Jonas, peut-être pas à ce niveau-là, mais d'avoir aussi ce sentiment d'incompréhension à l'égard de ce que Dieu fait, et peut-être même de colère parce qu'il accorde à des personnes ce que nous estimons qu'il n'aurait pas dû leur accorder. Peut-être à nous, il aurait dû accorder de telles choses, mais pas à ces personnes-là. Après tout ce que nous faisons, nous obéissons, nous allons à l'église, nous faisons ceci, et puis on voit des personnes qui ne s'occupent même pas de Dieu, mais à qui Dieu accorde des choses. Et il est évident que Dieu le leur accorde, parce que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir cette attitude-là. Hein, on peut avoir cette attitude. Hein, pourquoi Dieu permet à des gens qui ne le connaissent pas, des fois, d'être en bonne santé, d'avoir tout qui va bien, etc. Et puis parfois, ses propres enfants connaissent des difficultés énormes. Hein, on a envie de dire à Dieu, c'est pas juste. Tu ne peux pas donner la même grâce à nous qu'à eux. Et c'est ça que Jonas fait ici. Alors, Dieu voulait qu'on voit, je crois, dans ce chapitre 4, ce sentiment qu'il y a dans Jonas, parce que c'est un sentiment que nous pouvons avoir, nous aussi, dans notre propre cœur. Mais Dieu voulait qu'on voit aussi comment il répond à Jonas dans cette situation-là. Alors, on va regarder les versets 4 et suivants. Il dit, « L'Éternel répondit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter ?» hein, chapitre 4, verset 4. Et donc, on pourrait appeler ça les questions de Dieu. On a vu la colère du prophète, mais ici, maintenant, il y a les questions de Dieu. Trois questions que Dieu pose à Jonas, deux fois la même, au verset 4, au verset 9. Et puis, à la fin, on pourrait dire que c'est une grande question. Alors, peut-être que c'est une forme de question dans votre Bible. Parfois, c'est un point d'exclamation, mais c'est aussi une question hein, que Dieu pose à Jonas. Donc, fais-tu bien de t'irriter. À la place de Dieu, je crois qu'on aurait mis au prophète une bonne claque et puis on l'aurait fait rentrer dans les rangs. Ça suffit maintenant. Allez, arrête tes enfantillages, c'est bon. Allez, tu te ranges comme il faut. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne fait pas ainsi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va poser une question. Un peu comme il a fait avec Adam, comme il a fait dans beaucoup d'exemples dans la Bible, hein, comme il a fait avec Élie, comme il a fait avec d'autres, il vient avec une question. Pleine de tendresse, pas de reproche, on ne trouve pas de reproche dans la question de Dieu. Hein. Et il va amener Jonas à la réflexion. Il dit, fais-tu bien de t'irriter? Et on voit avec quelle patience et quelle compassion Dieu agit ici. Et cette question, vraiment, c'est vraiment pour renvoyer Jonas et nous-mêmes à une réflexion. Il veut dire que ton irritation est-elle justifiée? As-tu le droit de t'irriter de la sorte? Est-ce que ta colère est fondée? D'un côté, tu es fâché parce que cette ville s'est repentie. Et de l'autre côté, moi, j'éprouve du plaisir parce que cette ville s'est repentie. Donc, réfléchis. As-tu raison de t'irriter? Avons-nous raison de nous irriter et d'être en colère dans quelque chose qui plaît à Dieu? Quand ça plaît à Dieu, est-ce que la chose qui plaît à Dieu peut susciter en même temps pour l'enfant de Dieu sa colère contre Dieu? Dieu dit, réfléchis un peu à cela, Jonas. Qui de nous deux a la meilleure perception de la situation? Toi ou moi? Ce que Dieu demande à Jonas. Et c'est quoi la réponse de Jonas à cette question de Dieu? Regardez comment il répond. Qu'est-ce qu'il dit? Non, sa réponse, c'est au verset 5. Hein. Il dit quoi au verset 5? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle? Non, mais il dit rien. Il dit rien. D'accord, on est d'accord, il ne dit rien. Donc, on ne va pas inventer ce qu'il dit, il dit rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la ville, il va à l'orient de la ville, il se fait une cabane et il se tient à l'ombre jusqu'à ce qu'il voit ce qui arriverait dans la ville. Donc, Dieu lui pose une question et qu'est-ce qu'il fait? Il boude, très bien, il boude. Il boude. Et il va s'asseoir à l'extérieur. Et puis, il regarde ce qui va se passer. Il est en colère. Et vous savez comment ça se passe quand on est en colère, on ne répond pas. Hein. Quelqu'un nous parle, on est en colère. On ne répond pas. On bouge, on va ailleurs. Hein. Sauf que là, ce n'est pas avec un homme que Jonas fait ça, c'est avec qui? C'est avec Dieu. Il sort et il va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Il va voir si ce qui se passe, peut-être pense-t-il que Dieu reviendra à une raison saine et qu'il détruira la ville pour être conforme à sa menace. Et puis peut-être aussi il sort de la ville parce qu'il se dit, bon, maintenant c'est fini, c'est plus le lieu de ma mission. Il sort en guise de protestation ici de la ville. Alors, que va faire Dieu à cela? Il va faire une petite leçon de, on appelle ça une leçon de choses, hein, qui s'appelle le ricin, le ver et le vent. Regardez au verset 6, du verset 6 au verset 9. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Juste, on peut s'arrêter ici, voir comment Dieu est un Dieu compatissant. Hein. Le prophète, il aurait pu faire souffler, puis Jonas, il est fini. Hein. D'accord? Mais Jonas est irrité, sa colère, Dieu lui parle, il ne répond même pas, il sort de la ville, il va se mettre à l'extérieur, il est irrité, il fait une cabane pour se faire de l'ombre, parce qu'il fait chaud, et puis Dieu fait pousser tout de suite un ricin. Alors j'ai regardé un ricin, en France, ils disent que ça peut atteindre entre 4-5 mètres, je crois. Mais dans les pays où orientaux, je pense, ça peut aller monter jusqu'à 10 mètres, hein, plus, même plus. Hein. Et Dieu fait pousser un ricin immédiatement, c'est un miracle qu'il fait, pour lui faire de l'ombre et pour lui ôter son irritation. Bon, le soleil tape sur la tête, c'est vrai que ça fait mal, on est encore plus irrité. Dieu lui fait de l'ombre pour ôter son irritation. Un peu comme, ça me rappelle un peu Élie, vous vous rappelez quand Élie fuyait, et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a préparé des... Vous vous rappelez de la scène? Il s'est endormi, Dieu lui a préparé des gâteaux. Il y a un ange qui l'a secoué, qui a dit « Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. » Et Dieu avait souci de son bien-être. Ici, Dieu a souci du bien-être de Jonas, mais pour lui montrer quelque chose. Verset 8, verset 7, il dit « Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. » Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et Jonas se repentit. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il demande la mort. Et il dit la mort m'est préférable à la vie. Il avait fait la même chose, il dit la mort m'est préférable à la vie. Et Dieu dit à Jonas, et donc Dieu revient avec sa question. Jonas n'a toujours pas répondu à la question. Dieu revient avec sa question. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Avant, il était irrité à cause de ce que Dieu a fait au Ninivite. Maintenant, Dieu lui dit, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et là, Jonas, il explose. Hein. Il dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Terrible, hein? Il dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et Dieu, et l'Éternel dit, et là Dieu tire la leçon qu'il veut lui enseigner. Il dit, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine. que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit. J'ai oublié de dire, Jonas, on l'a pas lu, mais quand il a eu le ricin, la Bible dit qu'il était plein d'une grande une joie. Hein? C'est la première fois qu'on voit Jonas en joie. Hein? Mais il était là, c'était, il y avait de l'ombre sur sa tête. Hein? Si vous êtes des pays chauds, quand vous passez quelque part, il y a un arbre, un bel arbre qui vous fait de l'ombre, vous asseyez au pied de l'arbre, là, c'est avec un petit vent qui passe, c'est vraiment agréable. Hein? Aux Antilles, on dit, c'est, le petit vent, il est tellement bon qu'on l'aurait mangé avec un bout de pain. Hein, tellement c'est agréable. Hein. Et là, Jonas, c'est pareil. Il est vraiment dans la joie. Et puis, instantanément après, il est dans une colère extrême. Et Dieu dit au verset 10, l'Éternel dit, « Tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » C'est la question que Dieu pose ici à Jonas. Il dit, tu trouves du plaisir dans ce que peut te procurer un ricin pour lequel tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et il dit, Dieu, lui, trouve son plaisir à répandre sa grâce dans des âmes qu'il a créées et qu'il a fait vivre jusque-là. Voilà où Dieu trouve son plaisir. Toi, tu es capable de trouver de la joie immense juste dans quelque chose que tu n'as pas créé, que tu n'as pas fait, qui est monté instantanément, etc., et de bénéficier de cette grâce. Et c'est une grâce de Dieu, hein, d'une grâce, on appelle, c'est une grâce matérielle de Dieu. Et tu ne veux pas que Dieu trouve son plaisir, tu ne comprends pas que Dieu trouve son plaisir dans des êtres, dans des âmes que lui-même a créées. Il est en train de dire à Jonas, Jonas, tu as tort de t'irriter. Tu n'es pas dans ton droit quand tu t'irrites, parce que tu ne comprends pas ce qui plaît à Dieu. Tu ne comprends pas l'étendue de la miséricorde de Dieu. Tu ne comprends pas la portée de la grâce de Dieu. Elle n'est pas limitée juste aux Israélites. Dieu est un Dieu de grâce pour toutes les nations. Il dit, il faut que tu apprennes à trouver ton plaisir là où Dieu trouve son plaisir. C'est-à-dire dans la repentance, dans l'obéissance et dans le salut des, âmes ici. Et il termine, si vous voulez, le livre se termine avec une question, hein, en fait. Le livre se termine avec une question. J'ai envie de dire, ça se termine presque en queue de poisson, hein, puisqu'il est question de gros poissons dans le livre, mais c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a quelque chose en suspens. On aurait aimé savoir ce qu'est devenu Jonas. Je pense que vous auriez aimé savoir, est-ce que finalement il s'est tourné vers Dieu, ou est-ce qu'il est demeuré comme cela? Mais Dieu ne nous le dit pas. Et pourquoi Dieu ne nous le dit pas? Parce que ce n'est pas là l'important. Le livre n'est pas fait pour parler de Jonas, mais il est fait pour parler de Dieu et de sa miséricorde. Son serviteur, il s'en occupe. C'est comme s'il nous disait, ça, ce n'est pas votre problème de savoir ce qu'il est devenu. C'est comme l'apôtre, il y a un passage où il dit que de ne pas t'occuper du serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament. Hein, s'il tombe, cela regarde son maître et il a le pouvoir de le relever. Donc c'est un petit peu la même chose que Dieu nous dit ici. Mais il nous dit, mais il y a une chose que l'on doit savoir. Et la question qui est posée à la fin, elle est aussi une question pour nous. Qu'est-ce qui nous irrite? Quelles sont les choses qui nous irritent? Avons-nous raison de nous irriter? Est-ce que ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui nous plaît? Comprenons-nous l'étendue de la miséricorde et de la grâce de Dieu? Sommes-nous, comme Dieu, préoccupés par les âmes qui périssent et non pas par notre confort? Sommes-nous préoccupés par ceux qui doivent être amenés au salut et pas par notre confort théologique? Parfois, il y a des choses, on a notre petit dada et c'est ce qui nous intéresse. Et Dieu dit cela en substance dans cette lettre. Il dit, tu as pitié du ricin et moi je n'aurai pas pitié des gens qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. Voilà où se trouve ma préoccupation. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé à Ninive pour prêcher. Et Dieu nous dit la même chose qu'il dit ici à Jonas. C'est vrai qu'on peut trouver, quand on lit le livre de Jonas, beaucoup, il y a beaucoup de leçons hein, que l'on peut tirer de ce livre. Hein. Jésus lui-même dit que Jonas est un type de Christ. Hein, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 12, hein, il dit « Les gens de Ninive au dernier jour se lèveront et ils seront jugés moins sévèrement que vous parce qu'eux, ils se sont convertis à la prédication de Jonas. » Et il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. Donc, il utilise là pour dire voilà, hein, que combien Dieu est préoccupé par la par le salut des âmes. Hein. Et Jonas aurait dû être préoccupé par cela. Jonas avait une mauvaise conception de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Il pensait connaître Dieu, mais il ne le connaissait pas autant qu'il pensait le connaître. Hein. Il pensait qu'il pouvait cerner Dieu, mais il ne le cernait pas autant qu'il le pensait. Il ne connaissait pas la disposition vraiment de Dieu à l'égard des païens. Et le fait que Dieu ne prend pas plaisir, la Bible dit, ne prend pas plaisir dans la mort du pécheur, mais il prend plaisir dans le fait que le pécheur se repente et qu'il se tourne vers lui. Et je crois qu'une leçon pour nous dans ce livre, c'est qu'on doit être vraiment soucieux de ce qui plaît à Dieu, et particulièrement de ce point qui consiste à le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas, à crier auprès de ceux qui ne le connaissent pas que le jugement vient, qu'il faut se tourner vers Dieu. C'est ce que Dieu veut que ses enfants disent, que c'est ce que ses enfants annoncent à ceux qui sont autour d'eux. C'est ce qui constitue son plaisir. Sa grâce, il veut qu'elle soit portée à tous, qu'elle soit annoncée à tous. Et donc Jonas, il ne veut pas qu'on soit comme Jonas, là, pensant que c'est que nous, que voilà, nous sommes ceux qui sont bien, que Dieu a choisi, etc., et que les autres, tant pis pour eux. Non, il dit que le croyant véritable doit être tourné vers les autres et doit être occupé par le salut des âmes qui périssent. Alors, je relis encore la fin ici, il dit « Tu as eu pitié de ce qui ne t'a coûté aucune peine ». Et donc, il nous demande de quoi est-ce que nous avons pitié. Hein? On a pitié du chat qui souffre par là, des animaux, on a pitié des arbres. Maintenant, c'est l'écologie à tout va, hein? C'est la nature qui devient la grande chose qu'il faut sauver. Et parfois, malheureusement, certains chrétiens sont embarqués dans tous ces combats-là. Et Dieu dit, moi, ce n'est pas par le riz saint que je suis préoccupé. Ce n'est pas par la chaleur qu'il peut donner, ce n'est pas par les arbres, leur qualité, ce n'est pas par la planète que je suis préoccupé. Je suis préoccupé par les âmes qui ne connaissent, qui ne peuvent discerner ni leur droite, ni leur gauche. Et tout enfant de Dieu doit être rempli et pénétré de cette pensée-là, que Dieu, quand on voit des personnes qui ne le connaissent pas, qu'on ne les catégorise pas comme des pécheurs simplement qui sont loin de Dieu, mais qu'on les voit comme des âmes qui ne peuvent discerner ni leur droite, ni leur gauche, et vers qui le Seigneur nous envoie pour annoncer sa parole. Je crois que c'est la grande leçon qu'il y a à retenir dans ce livre, hein, que Dieu, c'est le Dieu des Juifs, c'est vrai, mais c'est aussi le Dieu de toutes les nations. Et quelle grâce, hein, il nous a envoyé celui qui est plus que Jonas, Jésus-Christ, dans lequel nous pouvons mettre notre confiance. C'est celui qui a le prophète par excellence, qui a accompli avec obéissance la volonté de Dieu, qui a été miséricorde même, on pourrait dire personnifiée, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu personnifiée, Jésus-Christ, et dans lequel nous pouvons mettre notre confiance pour être sauvés. C'est celui-là que nous devons aussi annoncer aux autres, pour qu'eux aussi puissent avoir la grâce de se tourner vers Dieu.